France Musique.
Merci François Bédin. Le mi-temps des musiciens. Renaud. Machard. Ce générique de Gérard Pesson, un compositeur, vous connaissez, Laurence Équilbé.
Oui, que j'aime beaucoup.
Dont vous avez enregistré une pièce absolument incroyable, dont la musique n'est pas tout à fait de lui.
Non, c'est vrai qu'avant d'écrire pour les voix, il m'avait demandé s'il pouvait faire une transcription pour Accentus, parce que en quelque sorte pour s'entraîner. Et donc, il a écrit une transcription magistrale de la Adagietto de la 5e symphonie de Mahler.
Ça, c'est une splendeur sur laquelle il a mis un texte, et c'est devenu une sublime œuvre chorale.
Oui, c'est sublime.
Vous avez fait ça dans un de vos albums transcription.
Oui, c'est ça. Dans les années 2000, et c'est un album qui a eu beaucoup de succès. Mais c'est vrai que cette pièce, cela dit, je crois que je ne l'ai quasiment pas refaite depuis, tellement c'est dur à faire.
Alors c'est un peu tôt pour parler du succès de votre disque Mozart, disque du Requiem de Mozart, qui est sorti il y a 15 jours. Les chiffres de vente vont arriver, mais je suis certain. J'allais dire si je voulais être méchant, mais je ne le suis pas, c'est bien connu, puis surtout pas avec vous, Laurence. Un Requiem de Mozart, ça marche toujours, non? C'est un peu méchant ce que je dis là. Je ne parle pas forcément de la critique, mais c'est d'ailleurs curieux que les Requiem de Forêt, les Requiem. D'abord, pourquoi les Requiem? Et il y a des œuvres comme ça qu'on réenregistre et qui trouvent tout le temps leur public.
Déjà, c'est des œuvres essentielles. On y parle de la mort. Donc évidemment, pour nous autres humains, c'est quand même une problématique assez attachante et intéressante et bouleversante. Ensuite, effectivement, c'est la dernière œuvre de Mozart. Donc elle est mythique, déjà. Et c'est ce qui m'avait intéressé à Kinsoula et Orchestra, c'est d'enregistrer un disque une première fois avec Accentus, qui sera un partenaire privilégié pour l'opéra et l'oratorio. Et surtout, de prendre une œuvre quand même grand public pour se présenter déjà, pour essayer de toucher beaucoup les gens, et puis de prendre quand même une œuvre complexe, parce que malgré tout c'est compliqué.
C'est moins simple que ça en a l'air.
C'est très compliqué.
Et puis alors franchement, pour me faire pardonner cette légère insolence, vous avez tellement fait pour des répertoires difficiles, méconnus, franchement.
Et je fais toujours,
Et que vous faites toujours, donc franchement, faites-vous plaisir et donnez-nous d'autres Requiem, et vous en avez déjà fait, et vous en ferez d'autres naturellement. Alors on continue l'exploration de cet enregistrement qui vient de paraître chez Naïve, il y a une quinzaine de jours, Laurence Équilbé. On s'est vu déjà lundi et mardi. On continue avec aujourd'hui le Domine Jesu Christe et l'Hostias. Je rappelle que c'est Sandrine Piau, je te donne la distribution complète, même si on n'entend pas tout le monde à tout moment. Sandrine Piau, Sarah Mingardo, Werner Gura et Christopher Purvis qui sont les solistes. Votre chœur de chambre Accentus, l'orchestre Insula ou Insula Orchestra, dirigé par vous-même.
Thank you.
Domine Jesu Christe et Hostias de ce Requiem de Mozart dans votre version, cher Laurence Equilbé, qui est à ce micro aujourd'hui et avec qui je discute depuis lundi avec grand plaisir de ce Requiem en le prenant sous toutes les coutures, on le dissèque un petit peu, on s'arrête, on fait des focus, vous nous donnez votre avis, vos choix, et puis on a aussi entendu des versions de certains de vos collègues que vous aimez, et ça je trouve ça très bien, ça nous permet de faire un tour du propriétaire. Mais là c'est Hostias. Eh bien, il vous intéresse particulièrement. Qu'est-ce qu'il a de si spécial, ce Hostias ?
En fait, c'est-à-dire dans
l'offertoire. À part que c'est un gros mot en espagnol terrible que je ne traduirai pas.
Ah bon ? Dans l'offertoire, bon, c'est un numéro donc qui est tout à fait incomplet, pour lequel on a que des quelques bribes musicales comme ça. Et donc, il manque probablement des indications à la fois dans les tempi ou. Et en tout cas, c'est dans ce numéro que je trouve dans les versions qui existent. Il y a le plus de différences parce qu'il y a vraiment des options de tempi qui font. Par exemple, Arnon Cour, lui qui est en général d'ailleurs relativement lent, plus lent que tout le monde, le fait extrêmement vite. Gardiner le joue très assez corseté, assez dansant. Et effectivement, il a une problématique parce que vers la fin, il y a cette grande mélopée de violon.
Oui.
On se trouve un petit peu
bête. Qui fait penser d'ailleurs à encore une chose de musique ancienne. Vous évoquiez Handel l'autre jour. Oui. Et là, ça m'a rappelé la fin du Crucifixus de la messe en si de Bach.
Hein.
Il y a une espèce comme ça de petite cadence finale qui ressemble beaucoup à ça.
Voilà, alors donc c'est vraiment le numéro où il y a le plus de variations. Je trouve, même si je n'ai pas fait une écoute comparée de tout ça, mais ce qui saute aux oreilles, en tout cas, c'est bien ça. Et puis effectivement, ce fameux Quam olim habrae, Marie-Chan Sons, par exemple, le prend très très lent.
Oui.
Moi, j'aime bien interpréter la descendance comme quelque chose d'assez vital et quasi comme une sorte d'allégorie de la reproduction. Quoi.
Donc, votre Mozart est un Mozart d'ailleurs juvénile. Hein. Vous aimez ça, il y a une sorte de volonté de ça
J'adore les fulgurances de Mozart, j'adore sa juvénilité, son humour aussi parfois, sa spontanéité, ça n'empêche la profondeur d'ailleurs. Hein. Mais par exemple dans ses messes, les messes salzbourgeoises de jeunesse sont fantastiques parce que tout est dit avec une énergie de plume sèche. Quoi. On dirait parfois un chat sauvage, enfin, c'est quelqu'un qui est très versatile et qui pourtant parfois va au fond des choses. Mais c'est ce Mozart-là, moi, que j'aime bien faire. Enfin, c'est comme ça que je me sens bien avec lui. Après, on peut tout à fait ressentir autre chose.
Vous connaissez cette petite phrase d'Hofmannsthal, vous savez, qui est en forme de dialogue. Il pose la question, où est la profondeur? Où faut-il mettre la profondeur? Et donc, le personnage répond, il faut la cacher à la surface. c'est joli. Je trouve que c'est un portrait mozartien. En plus, Hofmannsthal lié à Salzbourg, et Salzbourg étant si lié à Mozart, et Mozart à Salzbourg, la boucle est bouclée. On écoute tour à tour ces extraits donc, du Hostias. D'abord, Arnon Cour 2.
C'est
effectivement, c'est un tempo très rapide. Qu'est-ce qui vous dérange là-dedans?
Non, en fait, ça ne me dérange pas.
En dessous,
que
non?
Pour le chœur, c'est tout à fait cohérent. C'est un phrasé à la mesure. Ça s'entend très bien. Après, les syncopes chez les violons, bon, d'une part, dans une église, je demande un petit peu à voir si on les entend vraiment. Oui. Et puis, leurs chants, du coup, elles sont un petit peu bridées, du coup. Et puis, alors, surtout, c'est amusant, mais ça, on le fait tous, quel que soit le tempo, mais il est vraiment obligé de freiner vraiment beaucoup pour la fin, pour cette fameuse. dit, voilà. Parce que sinon, ça serait tout à fait ridicule à ce tempo.
On se prend la porte, comme vous avez dit hors micro. Je peux le répéter ?
Non, mais souvent, vous avez souvent des morceaux, plusieurs tempi sont possibles au début en soi, mais après, tout se négocie pas. Donc, il faut trouver quand même un tempo général qui puisse englober les idées musicales de tout le
mais
morceau.
Mais à la mesure, pour expliquer aux auditeurs, tout de même, c'est quoi ? C'est la brève, c'est ça ? C'est cette idée quand même de ne pas subdiviser les mesures ? Est-ce que vous pouvez juste peut-être donner un exemple ? Enfin, on va les entendre en comparant avec les autres, mais...
C'est un trois temps, c'est vrai que c'est toujours tentant un trois
donc,
temps.
Donc on peut faire pam,
pam, pam, pam,
pam, et
de le pulser.
Pam, 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 voilà, il y en a un trois temps et un temps, voilà. C'est ça en gros.
Donc soit on pulse, dans cette musique, la pulsation commence vraiment, même si on la ressent, à être moins proche du répertoire de la danse. On commence à s'éloigner de la cour. Donc voilà, c'est intéressant de voir que Méhardoncourt assume bien ce tempo, chapeau.
Écoutons John Elliott Gardiner dans le même passage. Mais dis donc, ils sont fâchés, les messieurs, là, comme Olivier Marbret. Enfin, ils ont quelques raisons. Alors là, tempo très très lent chez John Elliott Gardiner avec ses English Baroque Soloist et puis son Monteverdi Choir, bien sûr.
C'est décomposé, enfin, là, vraiment, c'est très très lent. Bon, moi, j'admire comment c'est fait. Après, c'est pas du tout ça que je ressens, parce que je trouve que ce qui est intéressant dans ce numéro, c'est notamment ce jeu sur les notes répétées du chant. Déjà, mais ça, vraiment, pour qu'elles soient répétées, qu'on sente bien ce rythme, il faut quand même que ça ne soit pas trop distendu.
Oui, sinon ça se dilue, quoi.
Voilà, et surtout l'opposition avec les syncopes de cordes.
Elles se perdent. C'est léger conflit. Il faut quand même qu'on les entende. Là, elles sont un peu diluées aussi rythmiquement par le tempo.
Oui, on dirait presque, même si j'aime beaucoup, mais on dirait presque un tempo de travail, comme on dit.
Tempo de travail. Je connaissais pas cette expression, un peu feignant, vous voulez dire, c'est ça ?
Non, non, au contraire. Caler les choses, tout ça, bien les entendre. Les
De travail. Comme on travaille lentement le passage au piano, avant de le faire dans le tempo. Ça me rappelle des souvenirs. On va écouter un dernier extrait du même passage de ce Requiem de Mozart, Hostias, et qui enchaîne avec ce mouvement où les hommes reviennent. C'est maintenant la version de Marie Janssen, à la tête du Concertgebouw d'Amsterdam et du chœur de la radio néerlandaise.
Thank you.
une version finalement presque beau, un peu plus allante que la version baroqueuse.
Oui, plus allante que Gardiner.
Pas plus lente en tout cas.
En tout cas, pour le début,
oui. Oui, pour le début, pour ce passage-là. Et on va jeter un coup d'oreille maintenant à la version de cet extraordinaire Kourentzis qui fait rien comme personne. On va voir comment il fait dans ce même passage. Voilà, un autre baroqueux, Laurence Equilbet, qui le fait très très lent.
Oui, c'est très distendu, c'est beau parce que c'est pas du tout vibré, alors du coup on a une vision vraiment comme une mélodie ancestrale, enfin, c'est,
oui,
c'est assez beau.
On entend bien les dissonances.
Voilà. Moi je ressens pas du tout ça pour moi-même, je me situerais entre le tempo d'Arnoncourt et celui-là,
oui,
en quelque
oui,
sorte.
Oui. Où il y a de la marge, on l'a bien
oui,
vu. Hein, on
une
l'a
grosse
bien
marge.
Vu. Et bien voilà, on a fait notre petite séquence critique sur ce passage sur l'Ostias du Requiem de Mozart que vous avez enregistré, Laurence Equilbet, avec Sandrine Pio, Sarah Mingardo, Werner Gura, Christopher Purves, le chœur de chambre Accentus, votre insula orchestra, comme j'aime dire, avec un accent français. Et il est temps d'une virgule.
France Musique.
Et oui, sur France Musique, il y a des virgules aussi, Laurence Equilbet.
Très beau.
Alors, vous êtes venu avec un joli cadeau pour les auditeurs et pour moi, parce que je ne connais pas cet enregistrement. C'est la messe en ut mineur de Mozart, que vous avez faite pour Arte, c'est ça?
Oui,
Arte l'a filmé, en tout cas.
Arte l'a filmé à ici les Molinos, parce que donc il y a une sous l'orchestra et en résidence dans les Hauts-de-Seine, hein, puisque c'est un orchestre qui a été créé par le Conseil Général des Hauts-de-Seine. Et on a enregistré le Requiem de Mozart au château de Versailles, et on a enregistré cette messe en ut mineur dans un très très bel endroit qui n'est pas ouvert au public, hein, qui est encore un monastère, à Issy-les-Moulineaux. Et donc, on était très heureux de ça. C'était notre premier enregistrement, notre première collaboration, même notre premier concert. Donc, c'était la messe en ut mineur, une œuvre aussi très compliquée parce qu'elle est inachevée aussi.
Autant inachevée ?
Ah oui. Bah, d'ailleurs, il n'y a pas de credo. Enfin,
Oui. Il y a des parties manquantes, mais voilà, Scalise et Mozart étaient parcellaires.
Oui, disons que c'est relativement écrit, sauf malheureusement l'Étienne Carin tout zeste qui a été complété. Donc ça, c'est un peu dommage, qu'on sent vraiment que c'est pas idéal, alors que c'est vraiment le morceau fantastique de l'œuvre. Mais bon, tout ce qui est écrit de Mozart, c'est une œuvre géniale et qui est une grande messe. Elle est longue, même inachevée, elle est assez longue. Donc, moi j'ai eu la chance de la jouer donc à Salzbourg, dans l'église où Mozart l'a créée. Donc ça, c'était vraiment très très émouvant.
Et à propos de cette messe en ut mineur, Laurence Equilbé, vous vouliez un petit peu entrer dans le détail sur quoi ? La symbolique, on pourrait dire, la symbolique des intervalles ?
Non mais c'est vrai que ce qui est assez fascinant...
Dit comme ça, ça fait peur, mais vous allez nous expliquer.
Non, ça ne fait pas peur.
Mais non, je plaisante.
Comme vous citiez Hofmannsthal, redites-moi là ce qu'il disait.
Il disait, c'est un petit dialogue sur la profondeur, c'est quoi la profondeur ? Où se trouve la profondeur ? Il répond, la profondeur, il faut la cacher. Où ? À la surface.
Ouais, c'est ça.
C'est vraiment magnifique.
C'est magnifique et c'est vrai que ça me fait penser à Nietzsche qui dit exactement l'inverse, qui dit nous sommes superficiels par profondeur.
Oui.
Donc c'est intéressant, mais en tout cas tout ça pour dire qu'à mon avis, Mozart est quelqu'un de juvénile et d'ardent, c'est un vif argent pour moi, mais il y a une densité profonde, il y a quelque chose de très très fort, de très spirituel dans sa musique religieuse et sacrée. Et je pense que c'est quelqu'un qui était imprégné de la signification des intervalles, la signification symbolique des intervalles. C'est toujours ce qui m'a fasciné dans la messe en ut mineur, qui est une œuvre qui ne commence jamais par le même intervalle. Et donc, chaque fois, ça veut dire quelque chose de différent. Par exemple, le fameux début, le Kyrie, là, il commence par une carte parce que c'est Kyrie et c'est la façon que choisit Dieu pour s'adresser à l'homme, c'est la carte. Parce que la carte, c'est 3 plus 1, donc c'est la Trinité, le sacré, plus l'unité, en fait.
Mais tout ça, ça vient aussi un peu de Bach. On avait cette rhétorique, cette symbolique des nombres aussi.
Il y avait la symbolique des nombres. Et le 4 est toujours associé au terrestre. Donc, si on veut s'adresser à la terre, on prend une carte au début. Et après, si vous voulez, il explique cette carte par 3 plus 1, parce que
la Trinité plus 1, voilà, c'est ça.
Ça c'est une tierce, un ton, voilà, un demi-ton. Donc c'est intéressant de voir que dès le départ, il formule la carte 3 plus 1 pour moi, et que ça devient un message symbolique en quelque sorte. Ensuite, le second numéro, c'est encore un intervalle, un autre intervalle. Il n'y a aucun numéro qui commence par le même intervalle. Et donc, c'est très, très, très important la messe en ut mineur parce que c'est imprégné de ça. Par exemple, dans le Requiem aussi, on peut noter que le début, qui est tellement émouvant, il joue avec le demi-ton. Et pourquoi ? Parce que le demi-ton, c'est la division, c'est la séparation. C'est comme si vous ne vouliez pas vous séparer de quelqu'un qui part. Donc ça, c'est vraiment tout à fait émouvant. Le Dies Irae, quand c'est vraiment le combat, c'est un combat évidemment divin, avec le divin, mais ça symbolise quand même les meurtrissures de la terre, les guerres. Et là, il prend carte quinti, pam, pim, pam, pim, pam, pam. Vous voyez, c'est très impressionnant quoi, de sentir ça. Et tout au long de l'œuvre, on peut noter que c'est crypté quelque part. Par exemple, dans le Kyrie, tam, ba, tim, pim, pa, cet intervalle là, pim, pam, et ben cette septième diminuée, c'est tout à fait relié à la perfection de la création. Donc ça veut dire que l'homme dit en quelque sorte, prends pitié de nous, quoi, et un peu de compassion parce que la création est parfaite. Vous voyez, donc voilà, et moi je pense vraiment beaucoup que Mozart était imprégné de cette culture de la signification symbolique.
Mais ça, il l'a quoi ? C'est la Kabbale ? Ça lui viendrait d'où,
oui,
cette chose-là ?
Oui, d'abord dans le maçonnique est aussi très imprégné de chiffres. D'ailleurs, Mozart, au moment de sa mort, avait été élevé au grade Kadosh, c'est-à-dire le Trisagion, c'est le 3 fois 5, ce triangle sacré, ce 3. Donc il y avait toute une symbolique comme ça, que je pense que Mozart connaissait très très bien. Par exemple, le 6, c'est le triangle inversé, c'est ce qui oppose le spirituel au matériel. Je crois qu'en tout cas, ce qui est très très étonnant, c'est toujours de dire carte quinte, c'est plutôt le rapport au terrestre, si on veut faire un petit peu schématique. Et la tierce et la sixte sont toujours reliés au macrocosme. Et ça donne vraiment une dimension, c'est pas du tout la même façon de les jouer. Les notes répétées, c'est souvent l'unité chez Mozart, c'est souvent cette présence divine. Enfin, etc. Oui. Je veux dire, hein, on va pas faire une thèse non, là-dessus parce que j'ai...
c'est intéressant. J'ai... Et c'est une chose qu'on connaît chez Bach. Hein, je reviens là-dessus parce que c'est vraiment chez Bach qui a à la fois les principes rhétoriques, c'est-à-dire les figures rhétoriques, et puis il y a même, on l'a découvert, un véritable chiffrage secret, très symbolique et très très étonnant.
Et par exemple, Mozart n'emploie jamais l'octave par hasard. En tout cas, dans sa musique religieuse, c'est toujours une forme de renouvellement. C'est toujours un passage du terrestre au céleste. C'est toujours une forme de rédemption. Dès l'instant que vous êtes un peu possédé quand vous faites un intervalle, c'est pour ça qu'il faut être relativement possédé dans Mozart pour jouer les intervalles, pas comme si c'était chaque intervalle égale chaque intervalle. Chaque intervalle, la plupart du temps, nous envoie un message. Donc voilà.
Alors, puisque cette messe en ut mineur, elle, n'est pas parue sur disque, mais qu'il s'agit d'un enregistrement donc fait par Arte, que vous nous avez apporté, eh bien, on va en entendre de larges extraits, comme on dit.
Avec plaisir, oui.
Et il y aura Julie Fuchs, soprano, Anne Allenberg, mezzo, Benjamin Hewlett, je ne sais pas comment on dit ce nom, ténor, et Marcus Verba. Votre orchestre, dont c'était donc la première collaboration avec Accentus, c'est le premier enregistrement,
voilà,
si je comprends bien,
concert,
des débuts.
Tout.
L'orchestre Insula Orchestra, et vous êtes à sa tête. Autre grande et sublime œuvre religieuse de Mozart, sa messe en ut mineur, Köchel 427.
Thank you.
Julie Fuchs qui chantait ce très fameux Et incarnatus est de la messe en ut mineur de Mozart, que vous avez non pas enregistré sur disque, Laurence Equilbé, c'est un petit inédit, en tout cas à la radio, que vous nous apportez, puisque c'est un enregistrement qui a été fait par Arte, avec donc cette soprano, Julie Fuchs, Anne Allenberg, qu'on a entendu dans le Gloria, votre chœur, le Chambre Accentus, et puis votre orchestre d'instruments anciens, faut-il le préciser, l'Insula Orchestra. Merci d'être venu avec cela, ça nous a un petit peu fait entendre autre chose que le Requiem, qu'on adore, mais comme on était vraiment la tête dans le Requiem depuis le début de la semaine, c'était bien d'entendre l'autre grande page sacrée de Mozart. Et vous parliez aussi des petites messes, hein, il y a beaucoup de choses de Mozart
qui
font...
Oui, les messes bourgeoises.
Il y a des choses à redécouvrir. Oui. Mais on va continuer à explorer tout ça, puisqu'on se retrouve demain pour continuer à parler de ce Requiem de Mozart que vous avez fait paraître chez Naïve. Merci à l'équipe qui nous entourait aujourd'hui, Jason Taous, Flora Sternadel pour sa collaboration artistique, et merci à Géraldine Prutner pour sa réalisation.
France Musique.
Oui, il est 14h, et donc temps de retrouver Clément Rochefort pour ses dépêches notes.